France Inter. Le 7-9.
Et à 7h46, notre débat écho du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
À gauche, cette semaine fut très politique avec la présentation par Anne Hidalgo, hier, dans le 7-9, de son programme présidentiel et la possible candidature dans les heures, les jours qui viennent de Christiane Taubira. Quand on regarde les projets des uns, des autres, avec ceux de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, de Yannick Jadot, voit-on des gauches convergentes ou des gauches irréconciliables? Cette question, messieurs, je vous la pose directement et à haute altitude. On entrera dans le détail après ce premier tour de table. Thomas Piketty.
Alors, écoutez, Nicolas, moi je pense, il y a des différences évidemment, mais pour finir, elles sont pas plus importantes entre les candidats de gauche que vous venez de citer qu'à l'intérieur des autres camps politiques. C'est-à-dire, on avait vu dans les Républicains, dans la primaire des Républicains, il y avait beaucoup de différences sur beaucoup de sujets entre les candidats. Et si vous prenez La République En Marche ou le Rassemblement National, on pourrait avoir l'impression, voilà, tout le monde est derrière le chef, mais pour rester au pouvoir ou pour se hisser au pouvoir. Mais si vous retirez le chef et vous vous mettez à discuter du fond, en fait, il y aurait des désaccords du même ordre sur beaucoup de sujets. Donc je pense que si on regarde les choses un peu de haut, sur les grands sujets économiques des années qui viennent, bon, il y a la question, après le quoi qu'il en coûte, qu'est-ce qui va se passer avec la dette? Et là, il y a quand même une certaine convergence des différents candidats de gauche que vous avez cités, de dire il va falloir mettre à contribution les plus aisés. Alors, il y a le retour de l'impôt sur la fortune, mais il y a plus de taxation des multinationales, alors que les autres camps politiques, grosso modo, disent tout va bien, aucune augmentation d'impôts. Bon, en fait, si on regarde entre les lignes, le gouvernement actuel a prolongé de 10 ans le CRDS, qui est un prélèvement sur tous les salaires, des plus bas aux plus hauts. La droite, à chaque fois qu'elle est revenue au pouvoir ces 30 dernières années, a augmenté la TVA, ça pourrait arriver. Donc, il y a des différences de programme, mais on voit que dans ce panorama général, disons, les différents candidats de gauche ont une certaine...
Donc, des nuances, des inflexions, voilà. C'est pas irréconciliable.
Bah, à l'intérieur d'un grand camp politique, quand on regroupe des millions de suffrages, 20 ou 30% des voix, il y a forcément des différences, mais pas plus sur ce camp-là que sur les autres.
Irréconciliable ou pas, Dominique, la question.
Je suis assez d'accord avec Thomas ce matin sur l'idée qu'il y a quand même pas mal de choses en commun quand on regarde les programmes. D'abord, l'idée qu'il y ait une diversité à gauche est très classique. 1981, évidemment, entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, il y avait des grosses différences, mais enfin, ils ont gouverné ensemble. En 1985, on se souvient de la fracture Rocard-Chevènement. Alors, pour les plus anciens des auditeurs, ils s'en souviennent. En 1997, la gauche plurielle a été théorisée. En 2012, les frondeurs ont passé un quinquennat, en gros, à expliquer que ce qu'il fallait pour exister, il fallait s'opposer, je le dis évidemment. Alors, sur le fond, moi je dirais qu'elles sont assez conciliables sur l'économie, totalement inconciliables sur la politique. Alors ça, c'est, j'ai me hissé au-dessus de ma condition sur la politique. Sur la politique, c'est assez simple, parce que chacun, quand aucun des acteurs ne domine absolument son camp, pense déjà à l'étape suivante, qui est celle des législatives. Et donc, je ne vois pas très bien comment ils pourraient travailler ensemble. Mais ça, c'est la politique. Sur l'économie, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses en commun. Il suffisait, et d'ailleurs, hier, d'écouter Anne Hidalgo pour dire, bah tiens, limiter les salaires de 1 à 20, et on l'a déjà entendu chez Jean-Luc Mélenchon. Arrêter le nucléaire à moyen terme, on l'a déjà entendu chez Yannick Jadot. L'ISF climatique ou pas, peu importe qu'il s'appelle climatique ou pas, l'ISF, ça existe. La hausse du SMIC, on l'a entendu. Donc, tout ça sont des choses assez simples. Évidemment, il y a des grandes fractures. C'est notamment sur l'Europe et les retraites.
Enfin, on va y venir, l'Europe. On va y venir, évidemment.
Cela me semble quand même dans un corpus qui est à peu près assez proche, avec une grosse différence sur la méthode, néanmoins, entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon, qui est d'un côté, Jean-Luc Mélenchon est étatiste, et Anne Hidalgo est contractualisation. Enfin, voilà. Donc, on est sur deux logiques intellectuelles différentes.
Un petit mot encore, Thomas Piketty, par rapport aux précédentes élections. Est-ce que le centre de gravité économique et sociale de la gauche s'est déplacé? Et si oui, vers où?
C'est-à-dire, la crise du Covid crée, en fait, sur tous les bords politiques, on sent un besoin d'investissement dans la santé, dans les services publics. Donc, c'est à gauche comme ailleurs, on voit que ce thème était déjà assez présent. À gauche, je pense, la nouveauté, quand même, je veux dire, sur la question européenne, je pense que, dans le fond, les choses sont moins irréconciliables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années.
Expliquez-nous.
C'est qu'en fait, beaucoup de règles européennes...
Là, on va pas être d'accord.
Ouais. Alors, oui, d'accord, Dominique, mais beaucoup de règles européennes que certains considéraient intangibles, possible il y a 5 ans, en fait, aujourd'hui, ont complètement volé en éclats. Et je pense évidemment notamment aux règles budgétaires, mais ont volé en éclats bien avant le Covid. Hein. C'est-à-dire, je veux quand même rappeler qu'en particulier en France, le gouvernement a abandonné toute idée de respecter les règles budgétaires à la suite de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est à la suite de la crise des Gilets jaunes qu'il y a eu un plan de dépenses, de augmentation de la prime d'activité, etc., où on a complètement...
Oui, donc c'est pas le privilège de la gauche de revoir les règles de fonctionnement budgétaire.
Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ces règles budgétaires, maintenant, en fait, plus personne ne les prend au sérieux. Et donc, de façon générale, je pense que sur l'Europe, si vous voulez, pour changer les choses, on a besoin d'un mélange de rapports de force, de mesures unilatérales, y compris sur la taxation des multinationales, la taxe carbone aux frontières, on peut y revenir, mais aussi de propositions constructives que moi j'appelle social fédéralistes, c'est-à-dire de pouvoir avoir des impôts en commun, sortir de la règle de l'unanimité. Mais il faut les deux, vous voyez, il faut avancer. Des fois, on a besoin d'avancer en transgressant les règles, parce que, vous voyez bien, sur les règles budgétaires, si on avait attendu l'unanimité, on n'aurait rien fait. Donc, oui, mais Dominique, vous n'êtes pas d'accord, mais quand c'est le gouvernement actuel qui transgresse les règles budgétaires, là, ça vous semble très bien. Si c'est un autre camp qui en parle, là,
vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Patience, une seconde.
Oui. Allez-y, Dominique.
Je pense que l'opposition sur l'Europe est vraiment importante, ne serait-ce d'ailleurs que vis-à-vis de la Russie. Entre la place de la Russie, entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon, ça n'a strictement rien à voir, me semble-t-il.
Enfin, là, on parlait des règles budgétaires,
Sur les règles budgétaires, on voit bien que dans un cas, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon dit... où il y a un changement absolument, il y a un changement radical, et les Allemands changent complètement de pied, où, en gros, on ne sait pas très bien si on s'en va ou on arrête quelque chose, on reste avec le Parti Socialiste, me semble-t-il, dans la logique, il faut discuter, et on va infléchir les choses. Donc je pense que sur la relation à l'Allemagne, je pense qu'on n'est pas exactement sur le même pied. Le Parti Socialiste s'inscrit dans une tradition qui est celle de 30 ans, nous avons un grand partenaire, et il faut discuter et le faire bouger. Et effectivement, il a bougé, il va bouger, et les règles ont en partie sauté. Mais du côté de Jean-Luc Mélenchon, on est plutôt sur l'idée de renverser la table, me semble-t-il.
Thomas Piketty.
Dominique, là, je suis vraiment en désaccord parce que je trouve que vous faites un peu un poids deux mesures. C'est-à-dire, vous savez, les règles internationales, les règles de traité, elles sont changées en permanence. Il y a beaucoup de règles actuellement qui sont transgressées. Par exemple, quand on fait des renvois de migrants à la frontière dans les Alpes ou à la frontière polonaise, on transgresse des traités internationaux. La France le fait. Ça a l'air de vous poser moins de problèmes que sur les règles budgétaires. Mais je pense qu'il faut, sur les règles budgétaires, de toute façon, ces règles ont volé en éclats. C'est-à-dire, si on avait attendu l'unanimité pour les transgresser, je prends un autre exemple pour illustrer ce que je veux dire. La question de la taxation des multinationales. Si on se contente d'attendre la règle de l'unanimité, c'est comme ça qu'on se retrouve pour avoir l'accord de l'Irlande, à avoir un taux d'imposition des multinationales qui est limité à 15%, parce que comme l'Irlande était à 12,5%, bon, ça va, ça leur coûte pas trop cher 15, il y a l'unanimité. Sauf que, comme l'a montré l'an dernier l'Observatoire européen de la fiscalité, il faudrait testo à 20-25%, et pour ça on est obligé de le décider unilatéralement. Ouais. Vous savez, ce qui a changé sur les paradis fiscaux ces 10 dernières années, des pays ont décidé, comme les États-Unis sur les comptes bancaires suisses, changer les règles sans attendre l'unanimité de la Suisse ou de l'Irlande.
Une demi-phrase pour pas rentrer dans le détail de chaque position, mais on voit bien que le sujet des années qui viennent sur les questions budgétaires, c'est pas le pacte de stabilité, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux emprunts en commun ou pas. C'est ça, la nouvelle frontière. Est-ce que les Allemands, la nouvelle coalition, va accepter qu'il y ait un nouveau plan de 750 milliards ? Et je pense qu'il y aura des divergences là-dessus. Voilà.
Est-ce que vous avez une analyse économique de la faiblesse de la gauche dans les sondages, Thomas Piketty ?
Écoutez, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même le fait, on oublie parfois de partir du fait que en France, le Parti Socialiste a été au pouvoir 20 années au cours des 40 dernières années. C'est beaucoup, 20 années sur 40 années. On retrouve ça chez aucun de nos partenaires. Hein. C'est-à-dire en Allemagne, les sociodémocrates qui maintenant viennent de revenir au pouvoir ont été au pouvoir seulement 7 ans sur toute cette période. Les travaillistes au Royaume-Uni, 13 ans. Il y a qu'en Espagne que le Parti Socialiste a été autant au pouvoir, ce qui a fini par d'ailleurs faire une scission, parce que quand vous êtes très longtemps au pouvoir, forcément il y a des déceptions, alors certains vont dire des trahisons, mais il y a forcément des erreurs.
Quelle conclusion en tirez-vous?
La conclusion, c'est, si on prend le cas de l'Espagne, à la fois le Parti
Socialiste
et Podemos...
La conclusion de Thomas, c'est que c'est trop tôt pour que la gauche revienne au pouvoir.
Je plaisante. En Espagne, ça a pris du temps. C'est-à-dire en Espagne, c'est vrai que le Parti Socialiste et Podemos, chacun en gros a voulu remplacer l'autre. Finalement, ils gouvernent ensemble, mais ça a pris plusieurs élections. Alors actuellement, on est dans une situation où c'est vrai vrai que la France insoumise, les écologistes voudraient remplacer le Parti socialiste, et donc ils n'arrivent pas à se mettre sur une démarche commune. La conséquence, c'est que ce sont les électeurs, vous savez, qui vont à la fin choisir. C'est-à-dire que les électeurs, compte tenu du système électoral français, vont finir par se concentrer sur le ou la candidate le mieux placé. Bon, mais pour répondre à votre question, l'autre facteur, c'est quand même évidemment que Emmanuel Macron a déplacé le centre-gauche vers le centre-droit et même très loin à droite, a repris le programme économique de la droite, et la droite elle-même, s'étant fait voler son programme, a été concurrencé l'extrême droite sur les questions migratoires. Donc ça, c'est évidemment une des raisons de fond du déplacement vers la droite.
Thomas nous explique que la faiblesse de la gauche, et effectivement, c'est ce que j'avais lu dans un papier du Monde que vous avez publié samedi dernier, c'est que la faiblesse de la gauche est due à Emmanuel Macron, ce qui est de la haute voltige intellectuelle, donc j'admire la plasticité. Moi, j'avoue que j'ai une analyse, alors évidemment, une analyse journalistique qui est un petit peu plus simple, qui est, on a l'impression, quand on entend la gauche, c'est que le plan économique et social, tout va mal en France, et que le plan, j'allais dire, régalien, identité, intégration, tout va à peu près bien, tout va mal en économie, tout va bien sur le régalien, j'ai l'impression qu'une partie des Français pense l'inverse. C'est-à-dire que sur le plan économique, les choses, la majorité des gens pensent, la majorité, pas tout le monde, que les choses ne vont pas si mal que ça, et que sur les questions intégration, identité, régalien, les choses ne vont pas si bien que ça. Quand je vois que le gouvernement a annoncé hier soir 15 milliards de dépenses pour bloquer les prix de l'énergie, on est quasiment en Union soviétique. Enfin, donc c'est difficile de dire que c'est difficile de faire le partage entre les camps des uns et des autres quand on dépense 15 milliards d'euros pour limiter à 4% la hausse des prix d'électricité. Je pense que dans le monde, il doit y avoir personne qui fait ce genre de choses.
Thomas Piketty,
c'est d'ailleurs assez critiquable. On pourrait aller sur ce plan.
Non, mais ce que ces mesures aussi soulèvent, toute la politique du quoi qu'il en coûte en général, c'est qu'après il va y avoir la question de qui va payer tout ça. Et comme je disais au début, il y a des différences d'approche entre les camps qui sont importantes. Vous savez, sur les questions identitaires régaliennes, je pense que personne ne dit tout va bien. Il y a un problème de discrimination.
Non, mais c'est une
balance. Il y a des questions de discrimination en France dont personne ne parle actuellement. C'est-à-dire toute l'obsession identitaire, les discussions sur le grand remplacement actuel, ces concurrences qu'on a à droite, qui, quoi que vous en pensiez, Dominique, le fait que Emmanuel Macron ait appliqué dans une large mesure le programme économique de la droite sur l'ISF, sur la libération du marché du travail.
Oui, vous l'avez dit déjà.
Ça contribue forcément à se pencher plus sur les termes migratoires identitaire, et au détriment, pour le coup, d'une vraie discussion sur les questions d'intégration, mais de façon constructive, positive,
je suis juste amusé par le fait qu'on explique la faiblesse d'un camp par l'attitude de l'autre camp, c'est tout, je ne vais pas plus loin que ça, ça me semble juste un peu, ça me fait sourire.
L'autre camp, qui est issu du centre. Mais pour revenir quand même aux mesures de fond, rapidement quand même, on a sur beaucoup de sujets, vous savez, par exemple, on a parlé des désaccords sur les retraites, moi je veux dire, il y a des désaccords, pas plus que dans les autres camps, mais à nouveau, il faut rentrer un peu plus dans les détails, parce qu'on ne peut pas résumer, pour prendre l'exemple des retraites, qui est un sujet important, la question sur 60, 62 ans, 64 ans, parce que tout dépend du nombre d'années de cotisation, tout dépend de l'âge où vous avez commencé, donc en fait on ne peut pas résumer...
On va faire un débat éco sur les retraites, évidemment.
Oui, parce que je pense qu'on se rendrait compte qu'en fait il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et là encore, que les désaccords qu'on peut avoir sont beaucoup moins clairs que ce qu'on peut
avoir. La conclusion pour Dominique.
Non mais disons, en 10 secondes sur les retraites, il y a, comme il y a 50 nuances de gris, il y a 50 nuance de réalisme à gauche sur la question des retraites. Je crois que aucun pays de l'OCDE n'a un système de retraite qui est à 60 ans et 40 années.
L'engagement est pris, on va faire un débat éco strictement sur la question des retraites dans le cadre de cette campagne électorale. France Inter.